Vous écoutez, on lit pour vous.
Condo, une loi pour mettre fin au cauchemar. Un texte d'André Laroche, paru le 15 février 2025 dans la presse. Toiture cuite, maçonnerie pourrie, ventilation défectueuse. L'achat d'un condo de rêve peut virer au cauchemar quand son propriétaire découvre avec effroi, et souvent trop tard, les coûts de rénovation cruciales des parties communes et un fonds de prévoyance à sec. C'est pour éviter ce genre de mauvaise surprise que Québec s'apprête à mettre en vigueur la loi 16 sur les copropriétés divises. Quelles seront les nouvelles responsabilités des syndicats de copropriété? Yves Jolicoeur, avocat spécialisé et président du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, a répondu à nos questions. Quel est l'objectif de cette loi? Son objectif est double. Tout d'abord, elle vise à mettre en place des mesures pour assurer une pérennité du parc immobilier en copropriété. Ensuite, elle va permettre aux acheteurs de connaître l'état d'une copropriété pour en évaluer le degré de risque à l'achat. Qu'est-ce que cela changera pour les syndicats de propriété? Cela les obligera à se doter de carnets d'entretien de leurs bâtiments et à commander des études de fonds de prévoyance. Le but est de s'assurer d'avoir les fonds nécessaires quand viendra le moment d'effectuer les réparations majeures et le remplacement des parties communes. Ce n'est pas tout. Les syndicats devront aussi remettre une attestation sur l'état de la copropriété à ceux qui souhaitent vendre leur unité. Les acheteurs intéressés pourront ainsi connaître non seulement combien d'argent se trouve dans le fonds de prévoyance, mais aussi quelle somme devrait s'y trouver selon les travaux estimés nécessaires. Qu'est-ce qu'un carnet d'entretien? C'est très technique. En résumé, c'est l'inventaire des parties communes qui doivent être entretenues et qui feront l'objet éventuellement d'un remplacement ou d'une réparation majeure. C'est cette évaluation de l'état du bâtiment qui servira d'assise à l'étude de fonds de prévoyance. Ce sont deux outils de gestion qui sont impliqués l'un dans l'autre. Par exemple, si une toiture d'une durée de vie utile de 30 ans se trouve dans le carnet d'entretien, on trouvera automatiquement dans l'étude de fonds de prévoyance un calcul actuariel pour déterminer, selon l'inflation, les cotisations en vue de son remplacement. Les futurs propriétaires n'achèteront donc pas juste des murs, ils vont acquérir un passé et un avenir de la propriété. Exactement. Comment les syndicats devront-ils procéder? Les gestionnaires vont devoir engager des professionnels, que ce soit un architecte, un ingénieur ou un technologue, pour évaluer le coût projeté des travaux futurs sur les prochaines décennies et bâtir de l'épargne forcée comme une épargne retraite. C'est ça que ça change. Ils n'auront plus le choix. Pourquoi cette loi est-elle devenue nécessaire? Parce qu'on vit des histoires d'horreur au Québec. La majorité des bâtiments en copropriété sont actuellement sous-capitalisés lorsqu'il est requis de faire de grands travaux. Trop souvent, des propriétaires qui ont acheté leur condo à l'aveugle apprennent par un beau mercredi soir qu'ils vont devoir mettre 50 000 $ ou 75 000 $ pour éviter que leur immeuble s'effondre. Ils paient le prix pour la négligence des critères des générations précédentes. Alors, dorénavant, les vendeurs qui voudront se sauver pour ne pas payer de cotisations spéciales vont se faire rattraper. Comment le gouvernement va-t-il s'assurer de l'application de la loi? La police, c'est la loi du marché. Les copropriétés qui ne respecteront pas la loi vont devenir des taudis et ne seront plus vendables. Elles ne seront ni assurables ni finançables. Des courtiers m'ont rapporté que Desjardins et la Banque nationale ont commencé à refuser de financer des achats de condos quand il n'y a pas de fonds de prévoyance. Et il y a plein de copropriétés au Québec qui n'en ont pas du tout. Combien de temps auront les syndicats pour se conformer? Le gouvernement leur accordera 3 ans pour faire faire leur étude de fonds de prévoyance et leur carnet d'entretien. Il leur donnera ensuite 10 ans, à partir du moment où l'étude a été faite, pour capitaliser à la juste hauteur du fonds de prévoyance. Donc, malheureusement, on va continuer à pelleter par en avant. Quand la loi sera-t-elle en vigueur? On l'ignore. Une deuxième ronde de réflexion est en cours sur le projet de règlement. Cela fait déjà 5 ans que le projet de loi a été adopté. Cela n'a pas de bon sens. Plus on retarde l'obligation, plus le déficit de capitalisation va se bâtir. Les firmes d'experts seront-elles prises d'assaut dès la mise en vigueur? Plusieurs syndicats n'ont pas attendu la loi pour se préparer. Il y a des gens qui ont fait faire des carnets d'entretien et des études de fonds de prévoyance depuis longtemps. Ils ont capitalisé en fonction des études et ils savent très bien où ils s'en vont. Selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Québec compte 389 000 unités de logement en copropriété divise résidentielle, mais aussi 13 000 unités de logement en copropriété indivise résidentielle. Ces dernières ne seront pas assujetties à la loi 16? Cette réforme législative n'a pas modifié les dispositions relatives à l'indivision. Ce vide législatif est regrettable car, alors que l'encadrement de la copropriété divise s'est considérablement renforcé, l'indivision demeure soumise à des règles plus générales, souvent insuffisantes, pour répondre aux réalités contemporaines. Des outils informatiques à votre portée. Des outils informatiques performants peuvent aider les gestionnaires de petites copropriétés à tenir à jour leur carnet d'entretien et à gérer leur fonds de prévoyance. Parmi ceux-ci se trouvent les logiciels Houdi et Regisco, tous deux développés au Québec. Pour quelques centaines de dollars par année, selon différentes formules d'abonnement, les administrateurs de syndicats peuvent y centraliser toutes les informations sur leur bâtiment, les rapports d'experts, le calendrier d'entretien et le fonds de prévoyance. Ces outils permettent également de produire les attestations sur l'état de la copropriété qui seront bientôt obligatoires pour la vente d'un condo. Copropriété divise et indivise. Connaissez-vous la différence? Source, condolegal.com. Divise. Les copropriétaires sont propriétaires exclusivement de leur appartement et, dans certains cas, de leur espace de stationnement et d'une case de rangement. Ensemble, ils possèdent aussi les parties communes de l'immeuble. Ces parties communes sont gérées par le syndicat de copropriétaires qui doit en assurer l'entretien et la conservation. Indivise. Les copropriétaires possèdent l'ensemble de l'immeuble comme un tout. Une convention d'indivision notariée est nécessaire pour en spécifier la répartition et pour identifier les droits de jouissance de chacun. Les copropriétaires sont solidairement responsables de la créance, mais certaines institutions financières offrent des prêts hypothécaires à responsabilité limitée à la quote-part de chacun. C'était « Condo, une loi pour mettre fin au cauchemar », un texte d'André Laroche, paru le 15 février 2025 dans La Presse.
La Californie est-elle toujours un Eldorado? Un texte de Rodolphe de Coninck, paru le 30 janvier 2025 dans Le Devoir. La puissance des États-Unis, c'est aussi celle de sa géographie, à savoir un territoire colossal. Ici, je paraphrase le journaliste du Devoir, Michel David, lorsqu'il affirme à juste titre que le Canada est doté d'une géographie colossale, mais surtout une répartition exemplaire de ses atouts à l'intérieur de son domaine. À bien y penser, aucun pays au monde, très étendu ou pas, adversaire ou partenaire des États-Unis, n'est doté d'une aussi remarquable répartition de ses composantes, que celle-ci soit démographique, urbaine, agricole, infrastructurelles, industrielles, portuaires, voire militaires. Une telle richesse et un tel équilibre caractérisent aussi la Californie, ce pays dans un pays. La Californie a longtemps fait rêver les Espagnols, puis les Mexicains et enfin les Américains. Son adhésion à l'Union en 1850 a constitué une étape fondamentale dans la conquête territoriale de l'Ouest et dans la construction politique de l'Empire américain, même si plusieurs États ne se sont joints formellement à ce nouvel empire que plus tardivement. Cette adhésion survint au moment de la ruée vers l'or de Californie vers 1848-1856 et, juste après que celle-ci eut refusé d'inscrire l'esclavage dans sa constitution, ce qui représentait déjà un indice de son progressisme latent. Déjà, les rivages du Pacifique, les grandes baies bien abritées telles celles de San Francisco et de San Diego, les terres fertiles de la vallée centrale, apparemment bien alimentées en eau par les massifs montagneux environnants et, enfin, le climat de la partie méridionale appartenant à ce que l'on appelle le Sun Belt, tout cela s'avérait très prometteur. La puissance californienne. Pour l'essentiel, la Californie a tenu ses promesses, notamment en comptant parmi les États aux revenus par habitant le plus élevé. Même si la Californie n'est qu'au troisième rang des États en superficie, derrière l'Alaska et le Texas, elle est première sur le plan de la population, avec près de 40 millions d'habitants, de la production agricole, avec plus de 11% de la production du plus grand producteur mondial, et du nombre d'emplois industriels. On ignore aussi trop souvent qu'elle est un important producteur pétrolier. L'État détient notamment le plus grand gisement du pays, Midway Sunset. De plus, la Californie domine le monde de la recherche et de l'innovation scientifique américaine avec sa demi-douzaine de grandes universités et, plus encore, sa Silicon Valley, toute chose confirmée par la pléthore de brevets détenus par ses chercheurs. Avec Hollywood, elle trône bien sûr au sommet du monde du divertissement. Enfin, en matière d'installation militaire, elle a peu d'équivalent au pays. Elle compte notamment plusieurs bases navales, dont celle de San Diego, et plusieurs bases aériennes, dont celle d'Edwards, située dans le désert de Mojave. Il n'est donc pas surprenant que la Californie soit, depuis le 19e siècle, une destination majeure pour les migrants provenant de l'intérieur, comme de l'extérieur du pays, en quête de l'Eldorado. La fragilité d'une ambition prométhéenne. Une fois cela dit, il faut retenir que la Californie a ses failles, et ce, depuis longtemps. Et ici, je ne fais même pas allusion aux menaces d'origine géologique comme celles que représente la dangereuse séismicité de cet État, dont la faille de San Andreas. Non, je pense au climat. La Californie doit depuis longtemps composer avec le manque d'eau. Non seulement une partie non négligeable de son territoire est désertique, en particulier dans le sud de l'État, mais même la vallée centrale est, depuis son essor au 19e siècle à titre provisoire de première région productrice de blé au pays, menacée par les pénuries d'eau. Sauf qu'ici, comme ailleurs, reportez-vous à l'agriculture en Israël et en Ouzbékistan, des pays eux-mêmes largement désertiques, la fuite en avant grâce à l'innovation a provisoirement permis de faire fi des pénuries. Pensons à l'irrigation par percolation ou au recours massif à la chimie agricole. Déjà, le secteur agricole était, et demeure, en concurrence avec les secteurs industriels et urbains en matière de consommation d'eau. Une nouvelle fuite en avant s'engagea dans les années 1930 avec l'aménagement du lac Mead, cet immense réservoir d'eau douce le plus étendu des États-Unis. Créé de toutes pièces à la frontière entre le Nevada et l'Arizona, ce lac artificiel avait permis à plusieurs États déjà aux prises avec de forts déficits en eau, surtout l'Arizona, la Californie et le Nevada, dont l'arrogante ville de Las Vegas, de poursuivre leur excès de croissance agricole et urbaine. Cela comprenait la vallée centrale californienne, de plus en plus parcourue par des canaux et des aqueducs, tout comme le sud de l'État. L'effondrement? Dans un très remarquable article paru dans le dernier numéro de Liberté, Alexis Riopel, aussi reporter spécialisé en environnement au Devoir, revient sur le tragique incendie survenu en août 2023 sur l'île hawaïenne de Maui. Se référant à la thèse de l'effondrement élaborée par Jared Diamond, son article est titré « C'est ça, l'effondrement? Les grands incendies qui dévastent actuellement la région de Los Angeles, insolente cité tentaculaire du sud californien, ne sont-ils pas une autre manifestation évolutive de cet effondrement suivant une logique décrite avec nuance et subtilité par Alexis Riopel? Aux prises avec, entre autres, les bouleversements climatiques, la baisse du niveau du lac Mead, la croissance des écarts de richesse, la dégradation urbaine et un affrontement annoncé avec un pouvoir fédéral de plus en plus irrationnel, l'Eldorado américain ne flirte-t-il pas dangereusement avec l'effondrement? C'était « La Californie est-elle toujours un Eldorado? » un texte de Rodolphe de Coninck paru le 30 janvier 2025 dans Le Devoir.
Migrants ou autochtones, confusion et vigilance aux États-Unis. Un texte de Dominique Degré et Philippe Granger, paru le 5 février 2025 dans Espace autochtone. Alors que les craintes d'interpellation et de profilage racial se cristallisent chez certaines nations autochtones aux États-Unis, plusieurs gouvernements tribaux veulent être proactifs en facilitant l'accès à des documents d'identité et en informant leurs membres de leurs droits face à ce genre de situation. C'est que les décrets signés par Donald Trump contre les migrants en situation irrégulière commencerait à avoir des répercussions sur les nations autochtones des États-Unis. Certaines signalent que leurs membres sont visés par des rafles de l'Agence de l'immigration et l'administration semble vouloir remettre en question le droit du sol des premiers peuples d'Amérique. Un article du média américain CNN rapporte ainsi que la nation Navajo, une des plus grandes du pays, a recensé au moins 15 autochtones en Arizona et au Nouveau-Mexique. Ils ont déclaré avoir été interpellés chez eux ou à leur lieu de travail, avoir été interrogés ou avoir été détenus par des autorités fédérales qui leur auraient demandé de prouver leur citoyenneté dans le cadre de descentes visant des migrants clandestins. Des déclarations que la nation Navajo n'a pas pu confirmer ni donner plus de détails. Dans un communiqué datant du 23 janvier, la présidente du Conseil tribal Apache de Mescalero au Nouveau-Mexique a pour sa part confirmé un incident dans lequel un agent du ICE, Immigration and Customs Enforcement, a interrogé un membre de la tribu sur la place publique. L'usage des termes « tribu » et « indien » est largement accepté aux États-Unis, notamment par les nations elles-mêmes, note de la rédaction. Un agent du ICE a abordé le membre de la tribu sur la place publique en espagnol. Le membre de la tribu a répondu qu'il parlait anglais, dit Tora Walsh Padilla, présidente du conseil tribal Apache de Mescalero. L'agent lui a demandé son passeport. Le membre de la tribu lui a montré une image d'un permis de conduire du Nouveau-Mexique et une carte d'identité tribale. L'agent du ICE n'a pas continué son interrogatoire et est parti. La sénatrice démocrate de l'Arizona, Teresa Hatatli, elle, affirme avoir été avisée par la famille d'une femme Navajo que cette dernière a été interrogée par le ICE, qui lui aurait demandé de prouver son autochtonie après que son milieu de travail eût été la cible d'une descente. Elle et 7 autres autochtones auraient été interrogées pendant 2 heures, sans accès à leur cellulaire, toujours selon la sénatrice Teresa Attatley, qui a parlé à CNN. Elle ajoute que la femme a pu finalement utiliser son cellulaire pour joindre sa famille, qui a pu lui envoyer une photo de son certificat de sang indien. Ce serait trop gentil de dire que c'est du racisme ou de la discrimination. C'est de l'irrespect pour l'humanité, a confié la sénatrice Teresa Attatley à CNN. Nous avons beaucoup progressé dans l'établissement de relations, mais ces initiatives de l'administration actuelle constituent un énorme pas en arrière, juge la sénatrice démocrate, qui est Navarro. Une lettre signée par quelques membres du Congrès américain et quelques sénateurs exhorte le président Donald Trump, sur la base de ses déclarations de la part de personnes autochtones et du cas confirmé au Nouveau-Mexique, a ordonné immédiatement à ses agents de cesser de harceler les autochtones et de violer la souveraineté tribale. Votre récente déclaration selon laquelle vous pouvez reconnaître un immigrant à problème, à son apparence, suggère que l'envoi d'agents de l'ICE dans nos communautés est lié à la couleur de la peau d'une personne et non à son statut migratoire, peut-on aussi y lire. Prudence et sensibilisation. S'il y a encore peu de détails concernant la supposée détention de personnes autochtones dans le cadre d'opérations fédérales en immigration, les membres des communautés autochtones des États-Unis sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter, forçant leurs dirigeants à faire preuve de vigilance et de proactivité en prodiguant des conseils et directives à leurs membres. C'est effrayant pour beaucoup de gens, plus particulièrement parce que certains de ces raids allégués en immigration ont lieu à des places comme l'aire métropolitaine de Phoenix, où il y a une forte population autochtone qui se mixe parfois à la population latino, explique ainsi Justin C. Ashteen, directeur du bureau de la Nation Navajo à Washington. De multiples leaders autochtones ont affirmé avoir reçu de nombreux appels au sujet des opérations fédérales et plus particulièrement sur l'obtention d'une carte d'identité autochtone. Pour y répondre et afin d'apaiser la situation, les communiqués, avec entre autres ressources personnes à contacter et procédures en cas d'interpellation, se sont multipliés au cours des dernières semaines. Restez calmes et assurés, nous aiderons tous les citoyens navajos. Titre, par exemple, Bouhou Nigren, le président de la Nation Navajo, dans un communiqué. En parallèle, ses dirigeants souhaitent sensibiliser les autorités aux cartes d'identité autochtones et faciliter l'identification des autochtones auprès des autorités. On essaie de travailler avec le département de la sécurité intérieure afin de mettre au point une carte d'identité tribale conforme à la norme Real ID, les cartes d'identité délivrées par les États pour la nation Navajo, indique Justin C. Ashteen. Il y a quelques années, nous avons mis en place un processus d'identification tribale qui n'a pas eu l'effet escompté, mais le moment semble idéal pour réitérer ses efforts. En outre, ces dirigeants autochtones espèrent que les autorités connaissent bien les droits et obligations des nations autochtones, entre autres, concernant de potentielles interventions sur leur territoire. Parmi ces dirigeants se trouve Austin Nunez, président du district San Javier, de la première nation Tohono O'odham, la deuxième plus grande nation du pays, située en Arizona, à la frontière avec le Mexique. Compte tenu de la mentalité de la nouvelle administration, elle dit probablement à l'ICE, « Peu importe si ce sont des réserves, allez-y quand même. » Je déteste penser que c'est quelque chose qu'on leur a déjà dit. Mais vous savez, encore une fois, il semble que le nouveau ministre n'ait aucun respect pour nous, affirme-t-il. Austin Nunes assure ainsi que les nations se serrent les coudes face à la situation, surtout qu'elles ne sont pas à leurs premières expériences de discrimination. Les incidents de profilage ne sont pas nouveaux. Lors de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens pensaient que les Autochtones étaient des Japonais. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que nous sommes hispaniques. Je pense donc que les perceptions changent, mais vous savez, le mieux que nous pouvons faire est de nous assurer que nous sommes préparés, ajoute Austin Nunes. Certains leaders moins inquiets. Mais ce ne sont pas tous les leaders autochtones du pays qui se montrent aussi inquiets. À la tête de la tribu Sistun Wapeton, dans le Dakota du Sud, au nord du pays, Garrett Renville souhaite tempérer l'énervement concernant les opérations contre les Autochtones. Au début, il y avait beaucoup de peur et d'incertitude, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment une si grande menace, juge-t-il. Je veux dire, c'est une question de bon sens, non? Imaginons que je sois arrêté par l'ICE. Où vont-ils me déporter? Dit Garrett Renville. Les craintes au sein des communautés autochtones l'ont toutefois incité à agir. Nous sommes dans une période d'incertitude et nous avons pensé qu'il était important d'être proactif et de faire des déclarations tout de suite. Vous savez, en tant que chef de tribu, nous sommes bombardés de questions de la part des membres sur ce que nous faisons pour aider à remédier aux situations ou aux craintes qu'ils ont. Cela étant, Garrett Renville souhaite se tenir le plus loin possible des déchirements partisans et pense même que les communautés autochtones peuvent profiter de leurs contacts avec les différents paliers de gouvernement et faciliter la solidarité entre partis. Je dirais que les tribus ont toujours eu pour tradition d'être non partisanes et de travailler avec les deux côtés de l'allée. Je ne veux pas réagir à tout, car ce n'est pas une bonne utilisation de notre temps en tant que chef de tribu. C'était « Migrants ou autochtones, confusion et vigilance aux États-Unis », un texte de Dominique Degré et Philippe Granger, paru le 5 février 2025 dans Espace autochtone.